Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h01 sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi, on est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, Daniel Riolo. On est avec Emmanuel Dancourt, avec Laurent Nandrieux, avec vous également au 32-16 pour agir à tous nos débats, avec dans un instant celui-ci pour ou contre la légalisation du cannabis. À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. Et ça y est, l'ouverture des billets d'hiver de la SNCF. On va pouvoir acheter des billets à petit prix. Enfin bon, si on les trouve, parce qu'on les trouve jamais. À 14h, la Belgique qui réforme son droit du travail. Flexibilité des connexions semaine de 4 jours. Faut-il faire la même chose en France? 14h30, RMC s'engage pour vous. Amélie Rosic qui tentera d'aider Nathalie, à qui il arrive une histoire ubuesque. On lui demande de payer la taxe foncière pour un logement dont elle n'est pas propriétaire. Évidemment, c'est embêtant. Elle n'arrive pas à s'en sortir avec les impôts, bizarrement. On tentera de l'aider. Et puis il y aura les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
RMC, Estelle Midi.
Et on va s'intéresser tout de suite à l'appel du jour. C'est celui de maires de tous bords qui veulent légaliser le cannabis. Auparavant cantonné aux grandes métropoles, aujourd'hui le trafic et la violence qui en découle gangrènent de très nombreuses villes de taille moyenne. Même Dijon n'y échappe pas, Rémi Barré.
Oui, c'est ce que dit une note confidentielle de la direction centrale de la police judiciaire, finalement révélée par le journal du dimanche. Des communes comme Dijon, tu l'as dit, mais aussi Avignon, Reims, Besançon ou encore Cambrai figurent désormais dans le classement des 20 villes comptant le plus de points de deal. Il y a 2 ans déjà, l'OFAST, l'office anti-stup en charge de la lutte anti-drogue, recensait près de 4000 points de deal sur l'ensemble du territoire français. Aucun département ou presque n'y échappe. Sur place, le trafic s'est d'ailleurs professionnalisé avec la présence quasi systématique d'armes. Dans le journal du dimanche, un policier de terrain explique que dans ces villes moyennes, on est en fait en train d'assister à ce qui se passait à Marseille il y a 20 ans avec des jambisations, des tirs dans les jambes, des fusillades, des tirs d'intimidation. Besançon, notamment, en a fait les frais depuis 3 ans. 18 fusillades, 11 blessés, 1 mort. Même chose à Dijon, où dans certains quartiers, les policiers parlent d'une marseillisation du trafic, avec, depuis 2017, 5 homicides par arme à feu liés au trafic de stupéfiants.
Alors, faut-il légaliser le cannabis en France? En tout cas, pour beaucoup de maires, c'est une solution. Est-ce que c'en est une pour vous également, Daniel?
Je suis assez perplexe quand même. La France est en train de se transformer, ou même pas, elle est devenue une sorte de Far West, plus gros trafiquants, plus gros consommateurs, insécurité grandissante à peu près partout et liée beaucoup à ce trafic-là. Et donc, pour résoudre ce problème-là, donc parce qu'on n'arrive pas à imposer une autorité, parce que trop longtemps, beaucoup de communes ont pensé que la sécurité, c'était quelque chose de pas bien, c'était sale, quelque chose qu'on abandonne toujours à la droite, voire à l'extrême droite. La seule réponse aujourd'hui, ce serait la légalisation. Pour faire baisser l'insécurité, on peut aussi, je sais pas moi, légaliser le vol à la tire.
C'est pas pareil, Daniel.
Non mais, je sais pas, on peut légaliser le viol, et puis comme ça, on n'aura plus du tout d'insécurité. Il n'y a plus de problème dans ces cas-là. Bon, alors j'exagère un petit peu volontairement, oui. j'en reviens au sujet. Il faut regarder les pays qui essayent ça. On n'a pas énormément de recul là-dessus pour avoir de vrais résultats. Au Canada, ils ont légalisé 30 grammes, 4 plantes à la maison, 30 grammes. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on dit peu. En France, on est les plus gros consommateurs. 26-35 ans, c'est la tranche d'âge. Responsabiliser le consommateur. Est-ce qu'on le fait parfois de dire à ces jeunes-là qui consomment énormément ou même aux plus vieux que à cause d'eux il y a des gens qui meurent, il y a des policiers qui sont agressés, il y a des quartiers où les gens ne vivent plus tranquillement. Est-ce que le consommateur, quand il fume son joint parce qu'il est avec ses potes et qu'il trouve que ça fait bien, est-ce qu'il peut se sentir un petit peu responsable du bordel qu'il y a en France?
Je pense qu'il s'en fout.
Eh ben, c'est un vrai problème. Ça s'appelle de l'égoïsme. On est dans un pays où la solidarité est un mot qui est extrêmement répandu. On n'arrête pas de nous parler de ça. On est le pays où on paye le plus d'impôts parce que la solidarité nationale, c'est un principe important. Eh ben, le petit consommateur de son petit joint avec sa petite bande de potes, il ferait bien de se regarder dans une glace de temps en temps et de penser aux dégâts.
Si tu légalises, t'as plus de problème.
Eh bien, je ne sais pas. Parce que
quand tu vas légaliser, on ne sait pas à quel prix. Alors déjà, il faudra savoir qu'est-ce qu'on va faire des trafiquants, quel genre de travail on va leur retrouver.
On va pas en plus leur retrouver un travail, tu plaisantes ou quoi?
Non, mais il va falloir s'interroger sur ce qu'on vont devenir ces gens-là. Donc ensuite, à quel prix on va vendre dans la boutique? Et si on le vend, j'en sais rien moi, à 10 balles le joint, je sais pas, ouais. Je dis ça comme ça. Et ben peut-être que dans la rue, t'as un mec qui viendra le vendre à 8.
Oui, mais si toi tu veux avoir un joint de bonne qualité et être sûr de ce qu'il y a à l'intérieur, tu pourras l'acheter à 10.
Mais aujourd'hui, la plupart de ces jeunes entre 26 et 35 ans, et visiblement, ils en ont rien à cirer de la qualité parce qu'ils achètent de la merde dans la rue.
Non,
et puis qu'est-ce qu'on va faire du shit? Le cannabis, c'est la plante, mais le machin là qui comment ça s'appelle? Oui, c'est le shit là,
oui, la résine.
La résine. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Ça va être légalisé, ça va pas être légalisé? Et puis on fera quoi des autres drogues?
Je suis pas certain
de ça.
Quand
on
tu
a
vas
pas de
aux
recul.
Pays-Bas dans les coffee shops, t'as de l'herbe et de la résine par exemple.
J'ai pas l'impression que des pays l'ont tenté et qu'on ait des gages de réussite là-dessus.
Des maires de tout bord s'accordent à dire la même chose.
Oui, mais ils s'accordent parce que l'insécurité est tellement énorme dans ce pays qu'on n'arrive pas à trouver de solution. La police est débordée, la justice est débordée.
Mais tu l'as jamais essayé celle-là. Et Emmanuel Macron, au départ, il était presque pour.
La Suède l'a essayé, ils ont fait marche arrière parce que ça portait pas des fruits. Donc,
Et ils ont moins de délinquance que chez nous quand même en Suède.
En Suède, c'est plus tellement vrai ça. Hein. Mais bon, moi je suis
face à l'insécurité, la Suède aujourd'hui a vu au pouvoir un truc qu'on n'imaginait même pas dans ce pays qui servait d'exemple à tout le monde, le royaume de la social-démocratie. Bon, l'extrême droite est au pouvoir.
Laurent André.
Oui, moi je suis très contre pour plusieurs raisons. La première, c'est que effectivement, si l'argument de dire l'interdiction favorise le trafic, dans ce cas-là, il y a pas de raison de s'arrêter. Effectivement, pourquoi ne pas légaliser aussi la cocaïne? C'est exactement
ça
le
même. Ça n'a rien à voir.
Bah pourquoi? C'est le même raisonnement.
Mais c'est pas la même drogue.
Aujourd'hui des millions, on peut le dire en France, de consommateurs réguliers de cannabis. Ça n'a rien à voir avec la cocaïne.
Oui, sauf que en fait, si l'argument est sécuritaire, il vaut aussi pour la cocaïne. Ensuite, l'argument qui consiste à dire oui, mais finalement, le cannabis c'est juste du tabac qui fait rigoler, c'est pas très grave. Non, ça a des conséquences très graves sur la santé et c'est une porte d'entrée aussi vers les drogues les plus dangereuses.
Tu peux être, je pense, fumeur de joint sans jamais passer à une drogue plus dure.
Non, je dis pas que c'est une porte d'entrée systématique. Je dis qu'il y a des études très documentées qui disent que ça favorise le passage à des drogues plus dures, pas dans tous les cas, mais voilà. Si on dit la légalisation va supprimer le trafic, mais contre-exemple, les cigarettes. Excusez-moi, à partir du moment où vous avez des gens qui, dans la rue, vous vendent des trucs trois fois ou quatre fois moins cher, évidemment, la légalisation n'empêche pas le trafic et au contraire le favorise.
Oui, mais tu auras quand même une grande partie de la population qui préférera aller acheter, je veux dire, de la drogue, entre guillemets, de qualité dans un magasin, légal.
Sans prendre de risque. Pour les riches, en fait.
Mais c'est pas juste pour les riches. Tu auras quelque chose de légal et quelque chose d'illégal à toi, je veux dire, libre à
toi. Personne m'a répondu sur le consommateur.
Attends, deux secondes.
Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez.
Je vais aller dans le sens de Daniel, parce que par ailleurs, si on légalise, on banalise l'idée que finalement, c'est un truc qui n'est pas très grave.
Et de toute façon, puisque tout le monde fume.
Je fume pas de cannabis. On a responsabilité dans le fait de répandre l'image d'un truc sympa. Et quand on parle de joint sur un plateau, tout le monde rigole.
Mais pas du tout.
Vous écoutez pas la télé. C'est ce que j'entends à longueur d'émission, c'est ce que j'entends dans toutes les séries, c'est ce que j'entends dans tous les films et toutes les séries.
Emmanuel Dancourt.
La personne qui vous parle ne fume pas et n'a jamais fumé un joint de sa vie, juste pour dire d'où je parle. C'est marrant parce qu'il y a peu de temps, je pensais comme toi. Et j'ai complètement pivoté. Tu ne fumes pas non plus, d'accord.
Personne ne fume ici.
Rémi balance, non.
J'ai complètement pivoté, mais je pensais comme toi il y a peu de temps, surtout que je me disais, et je l'ai encore entendu ce matin chez Apolline de Malherbe, il y avait un policier qui disait, il faut savoir que les points de deal dont tu parles, que ce soit à Dijon ou à Marseille, et Dieu sait que ça me fait mal d'entendre que Dijon se marseillise, mais en fait, ils vendent pas que du cannabis, en fait, ils font aussi la cocaïne et l'héroïne, donc ça changera sans doute pas grand chose à ce niveau-là. Mm-hmm. Mais pourquoi j'ai changé d'avis? Parce que je me dis que si on légalise, ça permet malgré tout d'encadrer une pratique. Je reprends les arguments d'Estelle qui disait au moins t'as de la bonne cam plutôt que de la mauvaise. C'est peut-être quand même mieux de fumer un bon joint qu'un mauvais joint. Mais indépendamment de ça, ça veut dire que outre le fait que l'État va taxer, va toucher des taxes dessus, mais ça permet de faire des campagnes de prévention et d'encadrer un peu plus et de savoir qui est consommateur et comment et pourquoi.
Il n'y a pas besoin de la légalisation pour faire des campagnes de prévention.
Non, mais ça permet d'avoir vraiment d'encadrer. Je trouve les choses. Pour moi, c'est un aveu de faiblesse. faiblesse hein, de légaliser le cannabis, mais on va certainement être obligé d'en arriver là parce qu'aujourd'hui on est
tous sur plante.
Mais le gars, pourquoi il ne fait pas une plante dans le jardin?
Comment?
Mais parce que c'est illégal aussi.
C'est illégal. Ouais,
complètement illégal.
On va pas aller fouiller dans le jardin. Bah,
moi je ne saurais pas où trouver des graines de cannabis. Ça ne doit pas se retrouver en jardinerie.
Ça
ne
doit pas être très compliqué de faire pousser sa plante de cannabis dans le jardin.
On pourrait taxer quand même et ça permettrait de financer justement des campagnes en faveur des personnes qui ont besoin qu'on s'occupe d'elles.
Alors Renaud va peut-être t'aider. Daniel, Renaud c'est notre auditeur qui nous a appelé au 3216 depuis Perpignan. Renaud qui est consommateur et cultivateur justement de cannabis. Bonjour Renaud.
Oui, allô, bonjour.
Eh ben merci d'être avec nous sur RMC. Renaud, justement, vous en tant que consommateur et cultivateur, vous êtes pour la légalisation?
Alors j'ai un avis partagé entre la dépénalisation et la légalisation, si vous voulez, parce que c'est d'accord. Un peu différent. Mmh. Et ça s'applique. En fait, il y a plein de stratégies possibles en fait par rapport à ce problème-là. Mmh. Le problème de la on va aborder le sujet de la légalisation. Donc du coup, en fait, je serais plus pour un marché d'État comme avec des officines comme les bureaux de tabac, avec
comme le CBD.
Le CBD. Alors le CBD, c'est très bien. Le problème, en fait, c'est que c'est un énorme business aujourd'hui, mais il y a un non-dit, c'est que le CBD non cumulé au THC en fait n'a pas vraiment les propriétés médicinales qu'on lui apporte. Mmh. Donc c'est un peu du
ça,
vent.
Ça c'est un autre débat,
qui est fait aujourd'hui. Hein. C'est un peu du vent. Au niveau de la légalisation, du coup, en fait, il faudrait des officines avec des taux allant de 5 à 15 à 20 comme l'alcool, en fait, tout simplement, la bière, le vin et les spiritueux à 20%, en fait, donc avec des taux différents. Donc ça serait, pour mon avis, pour la légalisation. Après, je serais plus pour une dépénalisation dans mon cas, en fait, parce que officiellement, moi, comme pouvait dire Daniel, en fait, moi, je consomme, mais je ne suis pas responsable de tout ce qui se fait au niveau des cités, au niveau des trafics, parce que mon herbe, en fait, moi, j'achète mes graines sur Internet. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France.
Ah, donc on peut trouver sur Internet, Daniel, tu vois.
On peut trouver en France.
Évidemment, on trouve tout sur Internet.
J'ai jamais cherché.
Il y a un vide juridique sur les graines, en fait, si vous voulez. En fait, on a le droit de les acheter, mais c'est des objets de collection. On n'a pas le droit de les faire.
Ah bon?
Tu
les collectionnes dans ton jardin?
Exactement.
Dans ta terre.
Le matériel pour faire pousser en France, le matériel horticole, entre les lampes à sodium, les lampes LED, maintenant il y a du LED.
Ah bah, c'est pour les lampes.
Oui.
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une passion. En plus de ça, il y a toute une passion, en fait. Pour moi, je compare ça au vin, en fait. Si vous voulez, je suis comme un agriculteur qui fait son vin. Je fais pousser mes plantes. Bon, j'en ai 4-5 dans une petite surface de 1 mètre carré.
Mais c'est juste pour vous, Romain. Non, mais en vrai, Renaud.
C'est juste pour moi. Je ne tire aucun argent, justement, et j'ai fait ça.
Vous en vendez pas à vos potes.
Et de donner justement.
Et aujourd'hui, tu peux pas t'en passer. Il faut que tu fumes ton joint.
Non, ouais, bah la journée, non. La journée, je fume pas, en fait, parce que je travaille. Quand j'étais plus jeune, je fumais la journée, mais maintenant, j'ai 29 ans. Je fume plus la journée, mais c'est vrai que mon plaisir coupable, c'est mon petit joint quand je rentre du travail. Exactement.
Voilà, mais après ça c'est votre truc, Renaud. Mais merci beaucoup, Renaud, qui est technicien climatisation, et Dieu sait qu'on en aurait bien besoin à RMC. Si vous passez dans le coin, surtout venez nous voir, Renaud. La clim,
parce qu'on crève de froid sur ce plateau.
Mais il y a qu'à l'arrêter. Pourquoi vous l'arrêtez pas?
Mais parce qu'on a essayé de l'arrêter, la clim.
La clim, c'est pas bien, faut l'arrêter.
Bah oui, mais on n'arrive pas à l'arrêter.
On vous dit, comment ça, on n'arrive pas à l'arrêter?
Taisez-vous, je voudrais qu'on prenne Mathieu Hanotin, c'est notre invité sur ce débat. Il est maire de Saint-Denis, maire PS de Saint-Denis. Bonjour Mathieu Hanotin.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous sur RMC dans Estelle Midi. Vous faites partie de ces maires qui ont appelé à la légalisation du cannabis. Pour vous, pourquoi ce serait mieux la légalisation que ce qu'il y a maintenant, Mathieu Hanotin?
Alors, j'ai entendu quelques éléments du débat et je vais essayer de poser les choses avec calme et sérénité. Mm-hmm. La première chose que je veux dire, c'est que d'abord, le drame en fait que nous vivons, et si j'emploie le terme, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, la situation est dramatique, puisque aujourd'hui, on a tous les problèmes sans aucune espèce de solution. Je m'entends, d'abord d'un point de vue sanitaire. Aujourd'hui, il ne faut pas s'y tromper. Le cannabis, en France, est en vente libre. Il est en vente libre dans toutes les villes de France, les grandes villes, les cités, les villes moyennes. J'en discutais encore récemment avec le maire de Charleville-Mézières, qui n'est quand même pas non plus...
C'est pas le Far West, quoi.
Voilà. Et il y a du cannabis, à peu près, où on veut en trouver. Enfin, c'est vraiment... On est dans une situation de vente libre. Parce qu'on a effectivement, vous l'avez dit, plusieurs millions en France, millions de consommateurs régulier. Donc, cette situation, finalement, cette dichotomie entre une réalité de consommation et la prohibition, elle crée vraiment des ravages. Elle crée le premier ravage, et c'est moi à eux que je pense, c'est notamment sur les mineurs.
Bien
aujourd'hui,
sûr.
Quand vous êtes dans cette situation dans laquelle on est, la seule pièce d'identité que va vous demander le dealer pour vendre, c'est un billet de 20 euros.
Oui.
Le billet de 20 euros, le billet de 50 euros, etc., etc. Et donc, effectivement, il n'y a aucune possibilité de régulation avec des dealers qui sont là que pour faire de l'argent sale, qu'on pourrait tout à fait beaucoup plus facilement imaginer comme ça se passe dans de nombreux pays. Je pense aux États-Unis, au Colorado en particulier. Là-dessus, qui est un des derniers exemples les plus récents, où quand il y a une officine, et ben le gars qui vend un mineur, il perd sa licence. Donc il a aucun intérêt objectif à le faire.
Et
donc,
qui seront les vendeurs, monsieur Hanotin? C'est le trafiquant.
Bah, c'est une boutique.
Non mais dans la boutique, qui va la tenir?
Bah, un commerçant. Comme un privé.
Excusez-moi, j'essaye de comprendre. La boutique sera le gars qui a son trafic. Donc il a plus matière à trafiquer puisque c'est légal. Donc il peut devenir le patron de la boutique.
Écoute.
Non mais voyez la boutique de CBD, ben, c'est la même chose.
Ouais, c'est ça.
Je ne pense pas que ce sera les mêmes personnes, pour être tout à fait honnête, parce que aujourd'hui on a un public de dealers qui sont des publics de délinquants. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il y a d'abord cet aspect pour les mineurs, mais deuxièmement, il faut bien comprendre l'aspect, excusez-moi de le dire, un peu économique de l'affaire. La prohibition, ce morceau de papier, cette loi. Qui est signé depuis 1973, en tout cas pour la dernière. Voilà. Aujourd'hui, en fait, ça revient à faire un chèque de 2 milliards d'euros aux trafiquants. C'est ça la réalité. C'est qu'en fait, l'État au sens propre, donne 2 milliards d'euros aux trafiquants de drogue dans notre pays. Et avec ça, il alimente une économie absolument dramatique qui fracasse les jeunes de notre pays, qui entretient la délinquance, qui entretient les ventes d'armes, qui entretient parfois, d'ailleurs, les réseaux terroristes aussi, et tous ces flux d'argent sales qui sont derrière. En fait, on est sur un problème économique.
J'entends. Oui, mais Mathieu Hanotin,
vous savez ce qui va se passer quand tu auras la boutique? Vous savez ce qui va se passer?
Bah, qu'est-ce qu'il y aura
Ils vont cramer la boutique. Excusez-moi, mais vous plaisantez avec votre non.
Excusez-moi, je ne sais pas qui parle au téléphone parce que c'est
Daniel Riello.
C'est un débat. Mais évidemment qu'il y aura des problèmes. Mais si vous préférez, on construit un système pas par rapport à l'exception. Globalement, ça va marcher. Après, évidemment, un jour, il y aura peut-être une boutique qui va cramer, etc., etc. En fait, je vous dis, vous ne croyez pas, mais ce n'est basé que.
Qui osera tenir une boutique, monsieur Hanotin? Le mec en rentrant chez lui. Mais le mec qui va rentrer chez lui, il y aura deux trafiquants qui vont lui dire ta boutique demain, elle est finie. Et le mec, il n'ira plus l'ouvrir.
Mais
vous êtes d'une naïveté, mais c'est
un truc. Si t'as 10 000 boutiques en France, elles ne vont pas toutes être cramées. Tu ne peux pas dire ça.
Il n'aura pas besoin de cramer la boutique. Il continuera à proposer en temps en trafic du cannabis moins cher.
Mais non, mais la différence, c'est que les cigarettes.
Attendez, peut-être
mais sûrement, non?
Non, mais attendez, mais peut-être que d'abord, c'est pas dit, parce que aujourd'hui, en fait, le prix de revient du cannabis est extrêmement cher par rapport à son prix de production. Donc, en fait, on est sur un truc où il y a une chaîne de valeur. C'est pour ça que je vous dis que c'est un problème avant tout économique. Qu'il y a une chaîne de valeur qui doit nourrir tous les intermédiaires, parce qu'en fait, construire le trafic, ça coûte extrêmement cher et ça rapporte énormément d'argent. Qui fait qu'aujourd'hui, rien ne dit que du cannabis vendu légalement serait plus cher.
Déjà, il sera taxé, donc.
Mais il serait taxé, d'accord. Mais enfin,
mais il est taxé par les dealers.
Et la boutique, on va l'ouvrir où, la boutique? Où
est-ce qu'elle va? Centre-ville.
Centre-ville de Saint-Denis? On ouvre une boutique de cannabis.
Attends, Daniel.
Moi, je lui dis espérance de vie 24 heures. Première nuit, elle existe
Daniel,
plus.
Daniel, en fait, là où t'es fatigant, je te le dis tout de suite, c'est qu'en fait, là, le truc, ce qu'on essaie de t'expliquer, au moins écoute ce qu'on essaie
mais
de t'expliquer.
Mais je comprends.
Et ce qu'on essaie de t'expliquer, c'est que déjà, alors tu me parles de la boutique de Saint-Denis, peut-être qu'elle sera caillassée une fois, deux fois, trois fois. Tu crois qu'à chaque fois, je veux dire, à un moment, les mecs, ils vont arrêter. Non. Ils vont voir que c'est mort. T'as 10 000 boutiques en France. Et tout simplement, les gens, ils iront pas à la boutique de Saint-Denis, ils iront à côté.
Ouais.
Et ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, si on essaye rien, qu'est-ce qui se passe?
Vous rendez pas
tu peux pas toujours dire, ça marche pas, on n'a pas essayé. Daniel.
Si, on l'a essayé.
Avant, tu peux écouter. Mais tu peux écouter Mathieu Hanotin. Il est élu, il est sur le terrain.
Parce que c'est un élu, donc il sait.
Il est élu de Saint-Denis, donc il connaît mieux sa ville que toi.
Discutez-vous,
monsieur le maire.
Les élus qui proposent des solutions bidon, ils ne seraient pas le premier.
C'est vrai qu'on n'en a jamais connu, c'est vrai.
Non, mais arrêtez, Daniel. Ça n'a jamais été essayé. Tu peux au moins laisser sa chance au produit.
Le trafic est tellement vaste en France. L'insécurité est tellement grande dans ce pays.
Donc, on ne fait rien.
Ah si, tu crées des prisons spéciales pour les trafiquants.
Bah, bien sûr, et ça va nous coûter une tonne. Ah super.
Ah ben là, ça coûte pas une tonne là.
Ben non, ça te coûte pas, ça te rapporte.
Responsabilise le consommateur déjà, parce que ça, depuis tout à l'heure, je cherchais à en parler, mais vous vous en foutez.
Mais quand ton consommateur, il a 14 ans, comment tu veux le responsabiliser? Et les mômes de 14 ans.
Responsabilise les parents.
Et les mômes de 14 ans qui sont guetteurs, et tu vas pouvoir renvoyer à l'école.
Attends, responsabilise les parents. Et ben avec quel argent? Avec l'argent qu'on va récupérer de du cannabis qui est vendu légalement. Là, on y arrivera à responsabiliser le consommateur.
Ouvrez les boutiques. Moi, je suis pressé de voir combien de temps avant de s'ouvrir.
Si vous expliquez que finalement c'est légal et donc pas si grave que ça, c'est pas des, c'est, enfin, les millions de consommateurs, ils vont être multipliés par deux ou trois.
Mais pas du
c'est
tout.
C'est complètement utopique de penser que la légalisation va diminuer le nombre de consommateurs.
Parce que ce qu'on te dit là aujourd'hui, Laurent, c'est que quelqu'un qui veut fumer du cannabis, il trouvera du cannabis.
Ouais.
En 5 minutes, il va trouver. Donc c'est comme si c'était légal. Donc en fait, tu vas pas avoir, je veux dire, d'autres gens qui vont fumer du cannabis parce que tout d'un coup, il y aura une boutique. Que... C'est pas un effet d'aubaine.
Bien sûr que si, parce qu'il y a quand même des gens qui. Le fait d'aller trouver un dealer, d'acheter clandestinement, c'est quand même pas.
Mais tu trouves pas un dealer, tu demandes à un de tes copains.
Il y aura une concurrence entre les boutiques. Et tu pourras en trouver du moins cher dans la boutique.
Mais attends,
parce
mais
que,
en fait, Daniel, je comprends
parce
pas.
Parce que le pas de porte sera plus cher, par exemple, si c'est à Paris dans le centre.
Mais c'est comme le CBD,
ou si c'est
à Saint-Denis.
C'est
comme le tabac, ça peut être régulé. Mais oui, c'est régulé, le tabac.
Il y aura un prix.
Évidemment, toute la France. Ton paquet de Marlboro, il vaut la même chose à Marseille et à Paris.
La boutique, si tu l'installes Paris 8e, elle te coûte plus cher qu'à Saint-Denis. La boutique. Oui, mais tes cigarettes, tu les vends au même prix, donc tu seras obligé de vendre plus cher.
Mais non,
mais c'est marrant, mais mes questions, mais vous voulez pas les entendre.
Mais
vous êtes persuadé que le business, ça va se monter comme ça.
Ça se fait
dans le Colorado. Ton paquet de cigarettes, il est le même prix à Marseille et à Paris. D'accord? C'est comme ça. Il est le même prix à Saint-Denis et à Dijon. Et c'est contrôlé par l'État. Juste, Mathieu Hanotin, vous, est-ce que vous espérez?
Allez-y. Moi, je suis allé voir une boutique dans le Colorado. C'est-à-dire qu'à titre personnel, j'ai eu l'occasion de m'y rendre de temps en temps. Et donc, je me suis dit, je vais quand même aller voir comment ça marche, effectivement, pour sortir un peu justement de la théorie. Bon, on est sur quelque chose qui est ultra sécurisé. Il y a une bande blanche à 2 mètres devant la boutique. Et si vous n'avez pas 21 ans, vous n'avez pas le droit de passer la bande blanche. Il y a un vigile qui vérifie votre pièce d'identité avant de rentrer dans la boutique. Et si jamais vous avez juste physiquement pas votre pièce d'identité sur le moment, vous êtes obligé de reculer derrière la bande blanche des 2 mètres. Quand vous entrez, il y a des dispositifs obligatoires de vidéosurveillance dans la boutique. Enfin, on a un truc où, en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'à partir du moment où c'est légal, en fait, on peut réguler. Je ne dis pas qu'on règle tous les problèmes, je ne veux pas être dans la démagogie, mais simplement, aujourd'hui, on a une absence totale de capacité de régulation. Je vais vous donner des exemples concrets de ce qui se passe à Saint-Denis tous les jours. On mène, et je suis plutôt un maire qui est réputé, pour monter en charge sa police municipale. J'ai une police municipale dans laquelle on a mis un chien stup, on a trouvé plus de 50 kilos en partenariat avec la police nationale, mais grâce à notre chien renifleur de cannabis cette année. On mène des opérations de harcèlement des dealers au quotidien parce que les nuisances qu'ils génèrent sont absolument dramatiques dans les cités. Et à 80% du trafic, c'est le cannabis. Donc on ne réglera pas tous les problèmes. Si on règle 80% des problèmes, c'est quand même pas mal, notez bien quand même.
Ça
va dans le bon sens. Voilà. Mais là-dessus, sur cet aspect-là, ce qu'il faut bien voir, c'est que aujourd'hui, vous avez un point de deal qui est, il y a 6 mois d'enquête qui va être fait. Il est cassé, le point de deal. Il y a un travail exceptionnel, à la fois de harcèlement quotidien, mais d'enquête de la police, etc. Vous savez combien de temps il met à se reformer avec
d'une semaine.
Mais
2 jours.
24 à 48 heures.
Bah voilà.
Voilà. Et avec une autre équipe qui n'a rien à voir. Parce qu'on est sur un problème économique et que quand vous mettez autant d'argent sale, 2 milliards d'euros au milieu de table, en fait, quel que soit le risque, vous trouvez toujours des gens pour le faire. Et parce qu'en face, vous avez 5 millions de personnes qui disent « Moi, je veux consommer ». Donc, on est face à un phénomène de masse. Et un phénomène de masse, il se règle par des politiques de prévention, pas par des politiques de répression. On ne va pas mettre 5 millions de personnes en prison.
C'est une politique qui ne marche pas.
La loi, avec la pénalisation, en fait, c'est 5 millions de personnes qu'on va mettre en prison. On a 50 000 places de prison en France.
Et on fait quoi des trafiquants après?
Mais en fait, les trafiquants, justement, si vous préférez.
Ils vont se trouver un métier.
Mais en faisant ça, c'est nous donner au moins les moyens de concentrer le travail de police sur les vrais trafiquants, sur ceux qui posent vraiment problème. Aujourd'hui, on consacre 850 millions d'euros par an à la répression des stupéfiants. Essentiellement, cet argent, il lutte contre le trafic de cannabis, parce que c'est la très grande majorité des stupéfiants. Mmh. Accessoirement, on consacre moins de 100 millions d'euros par an aux politiques de prévention, puisque tout à l'heure, on avait le débat, on n'avait pas besoin, s'il y a besoin de la légalisation,
pour faire de la prévention. Parce que justement, derrière, on peut le faire. Parce que derrière, on a des capacités de régulation. Ça ne veut pas dire que... Enfin, si vous voyez, c'est comme l'alcool. Aujourd'hui, l'alcool est interdit devant les mineurs. Est-ce qu'il y a des mineurs qui boivent de l'alcool?
Oui, bien sûr.
Arrive. D'accord. Voilà. Mais ils n'ont pas le droit d'en acheter. Est-ce que le fait qu'ils n'aient pas le droit d'en acheter, ça permet de réduire l'entrée dans l'alcool? Moi, je le pense. Voilà. D'accord. Si demain, on était dans une logique de prohibition, il suffirait qu'ils descendent au coin de la rue et un dealer d'alcool leur vendrait de la même manière de l'alcool frelaté qui les rend aveugles, comme c'était le cas dans les années 20.
Vous êtes en train de nous expliquer qu'un mineur n'ose pas frauder la loi en allant acheter de l'alcool alors qu'il a moins de 18 ans, mais par contre, ça lui pose aucun problème d'aller voir un dealer.
Non, c'est pas ça.
On a plus de capacité à réguler. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de marché noir de l'alcool.
Exactement.
Parce que justement, c'est régulé. Ou alors, c'est vraiment marginal, si vous préférez.
Et donc, vous avez un marché noir de la cigarette, donc vous aurez forcément un marché noir du cannabis.
Oui, mais ça retient très localisé.
Bien sûr qu'il y a un marché noir de la cigarette. Mais imaginez, deux secondes, la situation, s'il n'y avait que le marché noir de la cigarette. Voilà. Mais c'est pas le marché légal. Et aujourd'hui, c'est un des problèmes. Moi, ça me pose aussi beaucoup de questions. Et je pense qu'on arrive à la limite. Sur les cigarettes, du système d'augmentation des prix, parce qu'en fait, là, on voit que maintenant, ça ne fait plus baisser le nombre de consommateurs. Par contre, ça fait à chaque augmentation augmenter, et on est les premiers sur ça, les catégories populaires, à subir le trafic. La police municipale, elle saisit 12 000 paquets de cigarettes par mois.
D'accord.
Voilà. Okay. Donc c'est ça, cette réalité. Mais en tout cas, si on veut se donner les moyens de lutter contre le trafic, il faut d'abord retirer l'argent. Parce que c'est l'argent sale qui est au milieu qui génère tout.
Eh ben, on a bien compris. Merci en tout cas Mathieu Hanotin d'avoir été avec nous sur ce débat. Mathieu Hanotin qui est maire de Seine-Saint-Denis, maire PS de Saint-Denis. On va terminer avec le témoignage très fort de Reda qui nous appelle de Paris et qui est un ex-gros consommateur de cannabis. Bonjour Reda.
Bonjour Daniel, bonjour Estelle. J'étais en train d'écouter...
J'allais dire bonjour mais non. Allez-y Reda.
Le monsieur qui dit que la police elle harcèle les points de deal, déjà, et premièrement, il n'y a aucun harcèlement. Moi, je connais tous les fours, je connais tous les points de deal de Saint-Ouen et de Saint-Denis, il n'y a aucun harcèlement. La police, elle a baissé les bras, elle ne peut plus rien faire, tellement ils sont dépassés par le deal et l'argent qui émane du business.
Mais c'est ce qu'il
la
dit.
La police ne fait aucun harcèlement, à part passer, attraper celui qui a le sac.
Mais il parlait du harcèlement sur les gros, enfin sur les gros trafiquants, les petits. Qu'est-ce que vous voulez faire, Reda? C'est ce qu'il disait. Vous en chopez un, il y en a un deuxième qui arrive une heure après. Donc,
il n'y a pas d'harcèlement.
Reda, vous, en tant que ex gros consommateur, vous avez décidé d'arrêter.
J'ai arrêté parce qu'en fait, voilà, ça perturbe la drogue. Si vous, la France légalise la drogue, il va y avoir une génération qui va être encore plus perdue sur tellement de choses qu'elle pourra plus rien faire. C'est impossible de, si vous légalisez à partir de 16 ans, le petit va prendre son chien.
Non, ce sera 18, Reda.
Non, mais il a raison, Reda, c'est une génération d'abrutis.
Attends.
Ça va être, écoutez, il y a des petits qui envoient des grands acheter de l'alcool dans n'importe quel épicier. Les épiceries, c'est à partir de 18 ans.
Oui, tout à fait.
T'envoies un grand, il va l'acheter à ta place. Ça, c'est pas un problème pour le procurer quoi que ce soit. Même un paquet de cigarettes au tabac, c'est interdit à 18 ans. Tu envoies quelqu'un qui a 18 ans, il va te chercher ton paquet, il va te le donner. Ça veut rien dire, ça.
Mais vous, Reda, vous avez arrêté. En tout cas, vous étiez consommateur et vous avez décidé d'arrêter. Vous avez décidé d'arrêter pourquoi ?
Moi, j'ai décidé d'arrêter parce qu'en fait, voilà, j'ai eu un coup de jus. J'ai eu de la chance de pouvoir arrêter d'un coup. J'ai été fort, c'était dur. Mais vu que j'ai un très bon travail et que j'ai une très bonne situation, et j'ai vu en fait les conséquences de la drogue, hein, de la drogue douce, hein, surtout, hein, mais vraiment surtout sur la fainéantise, sur l'intelligence, sur le moral, sur quand t'as un problème, t'arrives pas à le gérer rapidement. Ils se multiplient fois 10. Avec ta famille, avec tes amis, tu penses tout est faussé à cause de la drogue. Et quand tu t'arrêtes, tu vois tout de suite un changement. Avec la drogue douce, tout de suite tu t'arrêtes, tu vois tout de suite un changement. Et ça, c'est important. C'est pas comme le crack ou la drogue dure. Pour s'en sortir, c'est...
Ça, c'est un discours intelligent. Bravo, Reda.
C'est pour ça que je voulais terminer avec Reda.
Mais voilà, il faut pas du tout, mais il faut vraiment pas légaliser la drogue. Ça, vous allez faire une génération de bêtes, d'une génération qui va perdre son temps et toute sa jeunesse. Et après, de 16 ans, de 18 ans, même jusqu'à à 25 ans, si le jeune, il a rien fait, il a fait que fumer, il va perdre. Qu'est-ce qu'il va faire?
Comment il rattrapera le retard qu'il a dans ses études? Je le dis depuis le début de ce débat. Le consommateur, le consommateur.
Il le fait déjà.
Parlons au consommateur des dégâts que ça cause dans le cerveau. Parlons au consommateur. Mettons-le devant un miroir. On lui dit, regarde à cause de toi ce qui se passe. Il y a des gens qui se font buter. Il y a des gens qui se font tirer dans les jambes. Il y a des flics qui se font caillasser. Il y a des commissariats qui sont cramés.
Ans,
toi qui consommes. Mais les parents, Estelle, les parents,
tu
bordel.
Les parents, ils savent que leur môme fume.
Oui, bah moi, si jamais mes enfants sont tentés, je vais leur expliquer. Je vais leur dire, regarde ce que ça fait à cause de toi.
Ils viendront te demander la permission.
Bon, écoutez, Estelle, dans ces cas-là, il y a démission des parents. Les parents ne servent à rien. L'éducation ne sert à rien. La morale ne sert à rien. La police ne sert à rien. La justice ne sert à rien. On légalise tout. C'est le bordel dans le pays parce que, de toute façon, ça n'est pas assez. Donc, on continue. On légalise tout. Il n'y a pas de problème. Allez, hop, c'est bon. On roule les jeunesses. C'est bon. Allez. Dans les écoles, l'autorité, ça sert à rien. Dans la rue, l'autorité, ça sert à rien. Il n'y a rien. On est dans un pays où c'est, on laisse aller le bordel. Voilà. C'est bien. Allez, hop, c'est bon.
Rémi.
Voilà. C'est bon. C'est bon.
Oui.
7 ans en France ont déjà fumé du cannabis dans l'année écoulée. Ouais.
Alors on remercie.
Mais les parents ne servent à rien. On leur explique pas.
Taisez-vous. On remercie Reda d'avoir été avec nous, Reda, pour ce dernier témoignage.
Merci Reda pour ce témoignage.
Et puis on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Est-ce qu'il faut légaliser le cannabis, Rémi?
Et c'est oui, le oui qui l'emporte à une courte majorité, mais quand même 54%.
Ouais, c'est quand même une très très courte majorité. Dans un instant, le meilleur d'RMC, ce sera le zapping. À tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi avec Rémi Barré, Daniel Riolo, Emmanuel Dancourt et Laurent Dandrieux. Et c'est l'heure du zapping, le meilleur d'RMC. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Extrait d'Apolline Matin ce matin. Êtes-vous prêt à remettre le masque? Eh oui, la 8e vague de Covid est bien là et les autorités sanitaires recommandent vivement de reprendre les gestes barrières avec notamment le port du masque en intérieur. Mais ça ne semble pas vraiment vous inquiéter, comme l'ont constaté nos reporters à Lyon.
On a suffisamment d'outils pour faire face, on sait ce qu'il faut faire.
On vit avec tout au long de l'année. C'est un truc banal maintenant.
Il vaut mieux se prévenir. Avant, faire des gestes de barrière, ça coûte pas grand-chose.
Autant en début, on savait pas trop comment gérer la maladie ou autre, donc on avait tous un peu peur, on va dire. Mais maintenant, on vit avec.
Emmanuel Dancourt, est-ce qu'il faut remettre le masque? Est-ce que vous l'avez remis à titre personnel?
En plus, je suis une flippée, moi, je l'ai toujours pas remis. Et pourtant, je suis dans les TGV en permanence où personne ne le remet.
Tu ne l'es pas dans
les TGV? Non. Dans les métros, bravo. Personne ne l'a. Enfin, une ou deux personnes TGV, près.
Personne ne l'a.
Bah moi, je l'ai dans le métro.
Ah ouais,
TGV.
Bah bravo, t'es encore plus flippé que moi, dis donc.
Bah non,
mais moi, ça me l'a
dit. Je veux pas avoir la grippe.
La huitième vague arrive. La huitième vague arrive, on le sait. Tu sais qu'elle a raison, hein, parce que la grippe, on n'a pas été immunisé depuis 2 ans.
Elle va être virulente.
Elle va être virulente cette année. Mais bon, moi, je serai vaccinée.
D'abord, quand est-ce qu'elle était dans le métro? Parce que
je pense que c'est dans le métro, tu plaisantes.
C'est intéressant, Daniel. Donc, va falloir s'y mettre. Mais alors, moi, j'ai aucune envie, je crois, comme la plupart des Français. Puis de redire aux enfants de remettre le masque à l'école et tout. Oh là là.
Non, mais peut-être pas les enfants, mais peut-être.
J'espère pas.
La Daniel qui tousse comme un perdu depuis une semaine et qui met pas son masque.
J'ai pas le Covid.
Oui, c'est rien. Mais peu importe ce que t'as, garde-le pour toi.
Je fais des tests.
Mais d'accord. Enfin, ça peut être d'autres virus. Moi, j'ai pas du tout envie de prendre les virus de Daniel.
Ah bah dans ces cas-là, tout le temps, les virus.
On porte le masque jusqu'à notre mort, alors.
Mais c'est ce que je fais.
On l'enlèvera plus jamais, alors, d'accord. Dans ce cas.
Ah ouais, bah moi, je l'enlèverai pas dans les transports. Après, vous faites ce que vous voulez. Je suis seule dans les transports et je mets mon masque et tout le monde m'engage.
Je t'encourage à poursuivre.
Non, mais toi, c'est pour pas qu'on te reconnaisse, ça n'a rien à voir.
Non, moi, je le mets pas parce que tout simplement, là, on n'est pas en période critique. Moi, tous les amis que j'ai qui ont eu le Covid ces derniers temps, ils ont eu vaguement mal à la tête 2 jours, quoi. Voilà. Donc.
Et vous avez envie d'avoir mal à la tête 2 jours?
Bah oui, enfin franchement, par rapport à avoir mal à la tête toujours potentiellement, ce qui m'est pas arrivé moi depuis assez longtemps, potentiellement par rapport à l'emmerdement que c'est de porter le masque tous les jours, il y a pas.
Bah moi je vais me faire vacciner.
Après que les gens qui se sentent en situation à risque le portent, évidemment très bien, je les encourage vivement, mais moi c'est pas mon cas donc.
Écoutez, moi, je ne touche pas la barre du métro et je mets un masque.
Ah, bah, bravo.
Je me sens totalement préservée. Extrait des GG ce matin. La présidence de la République est-elle exemplaire? Alors que le gouvernement nous demande de fortement réduire notre consommation d'énergie, nous apprenons que le palais de l'Élysée est une passoire thermique chauffée au fioul et que la facture de chauffage pour 2021 s'élève à 345 000 euros. Un mauvais signal envoyé aux Français pour l'avocate Sarah Salman.
Moi, c'est quand j'entends ça que j'ai envie de leur répondre par provoque. Je m'en fous de l'écologie. Dans la mesure, appliquez à vous-même des conseils. Ça veut dire que là, c'est serrez-vous la ceinture, faites le nécessaire, mais nous, on met le chauffage à fond. Et pendant ce temps-là,
un cliché,
on va.
Ça.
Non, mais Mais c'est pas un cliché, c'est la réalité. C'est qu'on se fout de notre gueule ouvertement. C'est toujours fait des petits gestes. Mais moi, ça me sort par les yeux, les petits gestes. J'en ferai même pas des petits, des grands. Je ne ferai rien.
En fait, tu te comportes comme une enfant, en fait.
Oui. Je me comporte comme le gouvernement.
T'attends que papa simplement. Et maman se comportent bien pour bien se comporter.
Et bah, il y a un devoir d'exemplarité.
Est-ce que, justement, l'Élysée doit être exemplaire sur ce sujet d'Ariel Riolo? On a vu Emmanuel Macron mettre un pull à col roulé.
Ouais, voilà, c'est parce que pour l'instant, j'ai un peu raté les gestes exemplaires à part le pull, alors qu'il fait encore 20 degrés dehors. Je me dis qu'en mois de décembre, ils vont sortir en moon boots et en combinaison de ski, là, parce que col roulé,
ça doudoune, déjà.
Oui, j'ai pas compris s'ils sont pas du tout en phase avec la météo là. Bon bref, ça montre à quel point ils sont dans l'exagération. Enfin, ils veulent envoyer un signal, ils veulent envoyer un message. Bon bah très bien, j'ai reçu le message, mais je suis pas sûr. C'est comme l'été quand il fait chaud, je suis pas sûr que j'ai besoin qu'on me dise il faut boire. Là en l'occurrence, ok, j'ai compris le message. Là c'est vrai. C'est un peu différent, il faut l'entendre. Baisse ton chauffage, si tu peux. Parce qu'attention, il y a des maisons entières où quand tu mets à 19, tu ne peux pas le supporter parce que les isolations ne sont pas aux normes. Oui. Donc il y a une transition écologique qui doit se faire. Mais dans les nouvelles constructions, mais dans des constructions qui ont 20, 30 ans, 19 degrés, c'est pas du tout suffisant. Ça, on le dit pas. Donc je pense que les gens qui y vivent vont continuer à mettre 21, 22 parce que sinon...
Et quand t'es en HLM, tu peux pas régler la température.
Sinon, ils ont trop froid. Donc... Il y a un message à faire passer et les gens doivent s'adapter. Il ne doit pas y avoir une forme d'obligation que tous les gens doivent prendre en pleine face. Ils doivent juste être responsabilisés et faire ce qu'ils peuvent face à ces nouvelles règles non écrites. Quoi. Voilà, tout simplement. Moi, le pull, je veux bien le mettre, j'ai aucun problème. Par exemple, là, si on arrête la clim et il fait 3 degrés de moins, pas de problème, là, je suis en chemise, je vais mettre un pull pour venir.
Est-ce que l'Élysée doit être exemplaire pour vous quand même, Laurent Dandrieu, avec 345 000 euros de facture de fuel en plus, alors qu'il faudra enlever les chaudières au fuel là bientôt, c'est pas énorme quand même.
Il devrait être exemplaire, mais on sait bien qu'effectivement on a affaire à une espèce de com à la con.
Toi t'as déjà mis un pull là.
Où on va afficher le
parce que je vais moi je, voilà.
On va afficher le pull à col roulé et pendant ce temps-là laisser la voiture avec chauffeur continuer à tourner pendant le conseil des ministres.
Ah bah non, ça ce serait balose.
Bah c'est ce qui se produit. Et donc voilà.
Bon, arrêter ça aussi.
Je pense qu'il faut surtout arrêter cette politique réduite à des coups de com à la con que personne ne croit en plus.
Enfin, c'est ce que réclament les auditeurs. À chaque fois qu'on a des messages sur Direct Studio, ils nous disent, quand le gouvernement recommande de réduire sa consommation d'énergie, on n'a que des messages qui nous disent qu'ils commencent d'abord par eux.
Oui, très bien.
Et après, quand ils mettent un pull, les gens se foutent de leur gueule. Et les éditorialistes politiques ou les chroniqueurs sur les plateaux se foutent de leur gueule en disant que c'est de la com. Eh ben, il y a un problème quand même là.
C'est pas parce que Bruno Le Maire se sera fait photographier en pull à col roulé que ça va changer quoi que ce soit. Là, c'est ça que je veux dire.
Ah bah oui, mais alors faut savoir. Alors Laurent, faut savoir.
Je vais mettre un pull comme Bruno Le Maire.
J'ai pas du tout envie de ressembler à Bruno Le Maire, ça c'est sûr.
Oui, parce qu'on avait compris. Emmanuel Dancourt, est-ce que vous, ça vous pousse à faire des efforts?
Alors moi je suis mal placée, je suis dans une maison qui a 150 ans, qui est chauffée au fioul, qui est une passoire thermique, ça s'appelle pas l'Élysée, c'est un peu plus petit. C'est très juste ce que tu dis Daniel sur le fait que 19 degrés dans une maison comme la mienne, on se pèle.
Moi en tout cas j'ai froid.
Mais c'est sûr.
mais ça me pose question tout ça et que oui, l'Élysée, hein. Eh ouais, j'ai remis le chauffage il y a une semaine.
Oh là là.
Je le réadapte à chaque fois. On descend à 18 la nuit.
T'es une sous-citoyenne.
Ah, c'est reparti. Voilà. Donc voilà, non, mais effectivement que l'Élysée doit être exemplaire et peut-être s'appliquer à lui-même toute cette campagne sur l'isolation depuis des années. Bah, il faudrait peut-être commencer par chez eux et baisser un petit peu la facture. Après.
On va terminer avec un extrait d'Apolline Matin ce matin. Faites-vous votre lit dès votre réveil, comme de nombreux Français. Nos parents nous ont appris à faire notre lit chaque matin, mais attention à ne pas le faire trop vite. C'est ce que nous a recommandé ce matin Charles Magnin.
Si l'on en croit cette étude repérée par Slate, c'est un très mauvais réflexe de faire son lit le matin quand on se réveille. En fait, quand vous faites votre lit juste après votre réveil, vous le transformez en nid à acariens. Oui. En moyenne, un lit contient plus d'un million d'acariens qui adorent les endroits sombres et se nourrissent des cellules mortes de votre peau. Et surtout, en s'accumulant, ils vont parfois déclencher des allergies, de l'asthme. Or, lorsque vous remettez bien la couette, les draps, dès que vous vous levez...
Ah bon, alors recréez un petit nid.
Exactement, vous créez le climat idéal pour que ces petites bêtes prolifèrent et se reproduisent. Alors que si vous laissez votre lit défait, la lumière du jour, la température ambiante vont tuer ces acariens. Il est donc fortement recommandé d'attendre quelques minutes, voire quelques heures après votre réveil pour faire votre lit. puis tant qu'à faire, laver vos draps aussi régulièrement.
Oui, c'est pas mal ça comme idée aussi.
On apprend de ces choses dans Apolline Matin. Voilà, vous faites ça, vous, Emmanuel ?
Ouais, ouais. Mais alors, je me rends compte qu'en les écoutant, que je le fais pas assez. On ouvre tous les lits. Alors évidemment que mes garçons, en aucune manière, ils ne les refont de toute façon. De
oui, moi, ils les ouvrent, mais ils ne les referment pas.
Mais voilà, mais finalement, ils tuent les acariens. J'apprends ça. Donc, je comprends en fait que je referme mon lit trop tôt, parce que je le referme une heure après l'avoir ouvert et après
avoir arrivé.
Donc, c'est une heure, ça va ?
Oui, ça va.
C'est pas trop tôt. Eh ben alors, on est sur la bonne voie.
En fait, il faut juste arrêter de dire à nos enfants, faites votre lit.
C'est ça, mais c'est pénible.
Il faut leur dire, défaites votre lit. Peut-être même si on leur dit ça, peut-être qu'ils le feront.
T'as bien fait ton lit, mais maintenant, tu vas le redéfaire, s'il te plaît.
Exactement. Allez, dans un instant, on parlera de la réforme du travail en Belgique. C'est incroyable ce qu'ils font les Belges. Ouais. Flexibilité, déconnexion, semaine de 4 jours. Est-ce qu'il faut faire la même chose en France ? Et puis, il y aura bien sûr Stéphane Pedrazzi, la Minute Conso, avec l'ouverture des réservations de Noël à la SNCF. On va vous expliquer comment espérer avoir un billet pas cher. A tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour sur RMC, RMC Story, canal 23. On est ensemble dans Estelle Midi jusqu'à 15h. Et là, on va parler conso avec Stéphane Pedrazzi. C'est la Minute Conso.
RMC, Estelle Midi.
La Minute Conso.
Et on va s'intéresser, Stéphane, à une date très attendue comme tous les ans. C'est l'ouverture des réservations pour les billets de train de la période de Noël.
À vos claviers, demain, 6h, coup d'envoi de la période des réservations. C'est pour les billets TGV et Intercités, uniquement pour la période du 11 décembre au 2 janvier. On pourra même réserver jusqu'au mois de juillet si c'est un Ouigo, c'est-à-dire le low cost de la SNCF. Et comme tous les ans, il va falloir être rapide pour réserver les trains les plus demandés.
On les a jamais.
Oui, c'est vrai, c'est difficile d'avoir les premiers prix. Il n'y en a généralement pas beaucoup. Et en plus, la SNCF ne veut pas nous dire combien. Mais cette année, si tu regardes bien le calendrier, le 24 décembre tombe un samedi. Donc le vendredi après-midi 23, inutile de te préciser que demain à midi, il y aura sans doute plus de place dans la plupart des trains, en tout cas des places bon marché. Et si vous n'êtes pas sûr des horaires ou des dates, petite nouveauté, la SNCF précise que désormais, tous les billets sont échangeables et remboursables jusqu'à 3 jours avant le départ. Donc,
ça, c'est génial.
En gros, le conseil, vous n'êtes pas sûr, vous réservez votre billet, vous pourrez toujours vous le faire rembourser plus tard. Sachez que tout le monde va se jeter dessus. L'an dernier, c'est vendu 4 millions de billets quand même pour la période de Noël et du jour de l'an.
Mais alors là, on peut réserver jusqu'au 2 janvier, mais si par exemple, moi je veux rentrer de vacances le 3, comment je fais ?
Eh ben, tu peux pas. En tout cas, pas avec un TGV et pas avec un Intercité. Tu peux réserver seulement un Ouigo. SNCF nous explique que pour réserver les TGV et les Intercités de la période d'hiver, donc qui commence le 3 janvier et qui s'achève le 27 mars, il faudra attendre début novembre. Donc, pour l'instant, tu ne peux pas réserver ton retour. En revanche, c'est possible en avion. Alors, c'est pas la meilleure solution pour la planète, mais j'ai trouvé un Paris-Bordeaux, aller-retour, 30 décembre, 8 janvier, chez Air France, 179€.
Ah bon, ça va.
Ouais. Donc ça va. Ça émet, je crois, 40 fois plus de CO2, mais ça va sinon.
Alors on sait que généralement, c'est beaucoup plus cher pour les vacances, et notamment les vacances de Noël, quand on voit le prix des trains pour aller au
CIO, par exemple,
c'est un enfer. Bah, je sais que ça coûte cher déjà.
x5.
Quoi ?
Pour la période d'hiver de 2021, le prix des billets TGV était jusqu'à 5 fois plus cher que le reste de l'année. La SNCF n'est jamais d'accord avec ces comparaisons, parce qu'évidemment, avec le yield management, les tarifs qui changent tout le temps, mais certains se sont amusés à faire le calcul, x5.
Mais alors, est-ce que par exemple, les cartes de réduction, ça marche quand même en période de vacances, ou est-ce que ça aussi, ça passe à l'as ?
Autre bonne nouvelle, ça fonctionne. Ah. La SNCF précise que toutes les cartes seront valables, notamment la carte Avantage, qui permet de plafonner le prix de certains trajets, et même pour les périodes de forte affluence, même pour les réservations de dernière minute, tarif plafonné à 39, 59 ou 79€ selon la durée du trajet.
Est-ce qu'on a des astuces pour payer moins cher ces billets de train ? Parce qu'ils ont quand même très fortement augmenté ces derniers mois.
Ouais, ils ont beaucoup augmenté. Alors, si t'es pas pressé, l'option Intercité, c'est pas forcément...
Intercité, parce que je vais aller à Marseille, je sais comment.
Eh ben, c'est très long. C'est très
tu
long,
t'arrêtes à toutes les gares.
Les 4 jours.
Non, ça s'arrête pas forcément à toutes les gares, mais c'est très long. Mais si t'es étudiant, si t'es une personne retraitée, que t'as le temps, c'est confortable, c'est moins cher, mais c'est plus lent. Sinon, il y a les Ouigo. Alors, c'est plus bruyant. Non, pas forcément. Tu vas changer à Lyon, j'imagine. Mais
et un Paris-Lyon en Intercité ?
Ouais, ça doit être 5 heures, 6 heures.
Ah oui, c'est ça.
Bah, t'emmènes un bon bouquin. Sinon, si t'as pas peur des enfants, il y a Ouigo, c'est beaucoup moins cher.
Si j'ai peur des enfants.
Mais comme c'est du low cost, tu sais que tout est payant. La prise électrique, c'est 2 ou 3€.
Oui.
Le bagage, c'est
3€. 5€ supplémentaire.
J'ai payé pour une prise électrique la dernière fois, elle était pas là. Donc, ça m'a profondément. J'ai payé 2€ et ça m'a vraiment énervé.
On verra avec un timbre qui coûte 5€.
J'étais pas très Ouigo et je suis pas prête de reprendre.
Ouais, alors du coup, la SNCF dit Ouigo c'est moins cher, mais si tu pars avec tes enfants, tes valises et que tu vas au ski, vérifie bien avant parce que ça risque de revenir plus cher. Autre astuce, on en avait déjà parlé, Kidigo, ça existe toujours, t'emmènes les enfants des autres, tu fais du babysitting dans le train et tu peux te faire payer jusqu'à la totalité de ton billet. Sachez que pour les périodes des fêtes, il y a beaucoup de demandes. Toutes les familles recomposées souhaitent envoyer leurs enfants entre les parents divorcés, donc tu peux te faire rembourser ton billet. Et puis, il y a un site de revente, des sites de revente de billets entre particuliers. En théorie, ça n'est pas autorisé. Vous savez que les billets sont non échangeables, non remboursables et non cessibles. Mais à la dernière minute, tu peux le mettre sur un site qui s'appelle Troc des trains au pluriel ou passetonbillet.fr. Alors, c'est à tes risques et périls.
Oui, parce que si c'est pas mon nom, je peux me faire contrôler. Oui,
mais ce qui précise, c'est que s'il n'y a pas de réduction associée au billet, généralement, tu n'es pas contrôlé, on ne contrôle pas ta pièce d'identité.
D'accord.
En revanche, effectivement, s'il y a une carte de réduction attachée, là, tu vas avoir droit au contrôle.
En tout cas, est-ce qu'il faut profiter de ces réductions, en tout cas des réservations qui s'ouvrent, parce que ça va être encore plus cher. On entend dire que les billets vont encore augmenter.
Malheureusement, oui. Oui, ça va augmenter à cause des prix de l'électricité. Évidemment, la SNCF, c'est le plus gros consommateur d'électricité en France. Et ils ne sont pas concernés par le bouclier tarif. Faire la SNCF. En revanche, comme ils consomment beaucoup de courant, ils le négocient longtemps à l'avance, ce qui veut dire que pour l'instant, sur 2022, ils n'ont encore pas vraiment ressenti la hausse des prix de l'énergie. Ça sera l'an prochain. Alors pour l'instant, c'est encore en réflexion. Le patron de la SNCF a été interrogé il y a quelques jours au Sénat. Il a dit que rien n'avait été décidé. Mais enfin, on ne voit pas comment ils vont pouvoir résoudre l'équation sans augmenter les tarifs.
Et c'est malheureux pour nous, ça va être encore plus cher. Merci beaucoup Stéphane Pedrazzi, tous les jours à 13h50 dans Estelle Midi, la Minute Conso. Dans un instant, on parlera de la Belgique qui réforme son droit du travail. Flexibilité, déconnexion, semaine de 4 jours. Est-ce qu'il faut faire la même chose en France? Et qu'est-ce que vous aimeriez de plus dans votre travail? Dites-nous tout au 32-16. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.